Christian Dzaoulembe, né à Yolo, Kinshasa, début des années 80, revêt de multiples casquettes et toutes avec sa passion. Auteur, éditeur, avec deux livres à son actif et la maison d'édition Bassama. Aussi chef cuisinier à la quincaillerie renommée restaurant de Bruxelles, très jeune, il touche au journalisme et collabore avec de grands noms de la presse congolaise. Il est également auteur d'un album musical Nzela et Zamolai et papa de trois enfants. Après des humanités en pédagogie générale, il fait un graduat en communication sociale aux facultés catholiques de Kinshasa. Ensuite, il s'établit en Belgique où il fait encore plusieurs formations en technique d'éducation de la petite enfance, aide-soignant, avant d'obtenir enfin un baccalauréat en écriture multimédia. Dans Mikanda, c'est avant tout avec l'auteur, écrivain, éditeur que nous allons nous entretenir aujourd'hui. Il commence à lire très tôt et restera un assidu lecteur. Ses premiers poèmes, il les écrit déjà à la petite école. Auteur de deux livres, dont le premier intitulé Une envie de Kinshasa et autres nouvelles, on qualifie l'écriture d'hybride entre le style journalistique et l'esthétique littéraire. Son deuxième livre, intitulé Le papillon bleu, ouvrage érotique écrit sous un pseudonyme de Zach Badou Noumbé. Bien qu'il vive depuis longtemps en Belgique, il est très impliqué dans le paysage littéraire à Kinshasa. Esprit et corps voyageant entre Bruxelles et Kinshasa, qui ne le quitte jamais, il vit à 150 à l'heure avec des idées qui fusionnent 24 heures sur 24. Et si on rajoute une soif d'apprendre, c'est ainsi qu'on vous présente Christian Dzaoulembe.
Mikanda, une émission littéraire, un partenariat entre l'association Bokutani et Radio Beauté.
Merci Obdel Kazadi pour la présentation de notre invité du jour. Cher invité, merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Christian Nzao Lembe, bonjour.
Bonjour.
Alors, on a entendu cette belle présentation et on a pu comprendre que vous aviez vraiment de nombreuses casquettes. Et d'ailleurs, j'ai ma liste ici pour ne pas me perdre. Chef de restaurant, journaliste, musicien, éducateur, aide-soignant, bachelier en écriture multimédia. Et ce qui nous intéresse évidemment aujourd'hui à Mikanda, c'est votre casquette d'auteur et peut-être aussi d'éditeur. En tout cas, félicitations pour ces nombreuses casquettes.
Merci.
Et je vais passer tout de suite à votre premier ouvrage, Une envie de Kinshasa. Et j'aimerais savoir, et je crois nos auditeurs et nos spectateurs aussi, ce livre Une envie de Kinshasa, vous l'avez écrit en tant que Kinois ou en tant que Congolais de la diaspora de Belgique? Éclairez-nous.
Je crois qu'il y a des deux. Il y a des deux parce que faudrait déjà savoir la genèse du livre, c'est les attentats de Bruxelles. Après les attentats, Bruxelles était quasi paralysée. On a vu beaucoup de gens qui sont sortis de Bruxelles pour s'en aller. À l'époque, je n'avais pas les moyens de voyager. Je cherchais un refuge pour supporter le choc de ce qui s'était passé. Et j'ai commencé à penser à Kinshasa.
Qui était votre ville
Ville
natale?
natale, voilà. Penser à Kinshasa, ma ville natale. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Alors, avec cela, on comprend directement que c'est le Congolais qui vit à l'étranger, qui s'y sent mal, qui a des envies de retourner chez lui, de revoir chez lui.
D'où le titre.
D'où le titre, parce qu'une envie de Kinshasa, c'est pas qu'une envie. C'est pas un caprice. C'est plutôt, comme je le dis souvent, cette envie qui est, cette fringale qui est au fond de soi. Un peu comme quand une femme enceinte dit j'ai envie de manger quelque chose. Donc, c'est cette envie-là qui mélange le biologique, le psyché et en même temps aussi la culture. C'est ça l'envie de Kinshasa.
Waouh, c'est une très très grande envie qui vous a mené, cette première publication. Mais cette envie de Kinshasa que vous avez écrite donc en 2009, 2019, elle ne vous est pas venue, l'écriture ne vous est pas venue comme ça tout d'un coup. Vous ne vous êtes pas réveillé tout d'un coup en me disant je vais écrire le livre. Il a dû avoir une genèse aussi pour que toute cette envie que vous aviez se retrouve donc justement écrite dans le livre.
Quand je pars à Kinshasa, souvent, ça m'arrive une année sur deux et maintenant c'est beaucoup plus fréquent, je me fonds dans la masse. Je me promène, je prends les taxis motos, je marche à pied et je vois du monde. Et tout d'un coup sautent des caricatures de certains personnages de Kinshasa. C'est centré sur ces personnages-là, ces anecdotes. Il faut savoir que Kinshasa, c'est une ville pleine d'anecdotes. On dit toujours, si quelqu'un vous explique Kinshasa et que vous dites que « Ah, j'ai compris cette ville », c'est qu'on vous l'a très mal expliqué.
Effectivement.
On est... l'imprévu est prévu à chaque coin de rue. Donc on est prêt à s'étonner à tout moment. Et c'est comme ça que j'ai construit ce récit, autour de ces personnages. Et encore, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça foisonne les fameux buzz. Au Congo, il y en a un chaque jour, autour des politiques. On retrouve les politiques dans les livres. Autour des religieux, j'ai envie de dire, les pasteurs, les prêtres, il y en a chaque jour. Autour de Monsieur Tout-le-Monde, hein, des commerçants, des enseignants, des hommes d'affaires. Alors c'est autour de ces personnages-là que j'ai construit les nouvelles qui font partie d'Une envie de Kinshasa.
Oui, effectivement, dans tout ce que vous venez de citer, j'ai pu reconnaître certaines nouvelles, là où on parle de la sœur Esther.
Exactement.
Voilà.
Et dans ça a marqué tout le monde,
oui. La sœur Esther. Effectivement, donc ceux qui liront Une envie de Kinshasa retrouveront aussi donc, votre commentaire dedans. Et j'ai envie de vous demander, donc votre livre Une envie de Kinshasa, donc il y a sept nouvelles dedans. Et je vais d'ailleurs les citer. Une envie de Kinshasa, La Villa de Lungila, Révélation, Coupable, Tantine Mado, Réunion d'urgence, Une page à tourner. Et je les ai citées pour que les auditeurs donc, comprennent bien que ces nouvelles, c'est vraiment Kinshasa au quotidien. Donc les réunions, la tantine, oui. On ne peut pas parler de Kinshasa sans parler des tantines, des tontons, révélations, comme vous avez dit dans les réseaux sociaux, il y a toujours des révélations, des buzz, que ce soit sociaux ou politiques, nous voyons un petit peu de tout. Donc vous peignez vraiment, c'est un peu votre fibre journalistique qui se retrouve, dans ce livre.
Exactement, dans les médias, les journaux. Chaque fois que je pars à Kinshasa, je reviens avec des coupures de presse. Ça, c'est très important. Parce que, ce qui est dommage, dans les maisons de presse, surtout de presse écrite, ce genre de faits qui font une envie de Kinshasa sont conviés aux stagiaires qui vont dans les communes voir les tribulations sociales qui se passent à travers la ville. Or, ce sont c'est des trésors. C'est là où on retrouve le quinoa dans sa nature la plus primaire.
Oui. Effectivement. Oui, vous en faites de très belles esquisses dans vos nouvelles. Merci beaucoup. Alors, vous avez aussi un deuxième ouvrage donc, que vous avez écrit sous un pseudonyme. Je peux le citer ?
Oui.
Voilà. Donc là, pour ce deuxième ouvrage, vous êtes Monsieur Zach Mbandou Numbe. Vous avez repris, je crois, j'ai cru voir donc, des lettres, des consonnes et tout ça de votre nom réel. Exactement. Mais pourquoi ce pseudonyme ?
Parce que c'était une première d'avoir un livre de ce genre, hein, de la littérature érotique, dans la littérature congolaise. C'était la crainte que si ça ne marchait pas, je le dis aujourd'hui, le fait de choisir le pseudo, toute la procédure psychologique qui tourne autour de la prise en charge de l'œuvre, je l'ai fait avec un grand ami, Tata Longhi, Béatitude.
Voilà, un ami d'enfance.
Un ami d'enfance de longue date. On est allé sur ce sillage-là, c'était aussi pour dire, si le public n'adhère pas, j'aurais pu nier l'œuvre. J'aurais pu nier mon enfant.
Vous aviez une porte de sortie.
J'avais une porte de sortie et me refaire parce qu'on allait dire « Ah, mais c'est lui qui écrit ce genre... » Heureusement, et à ma grande surprise, le public a adhéré au travail, ce qui sous-entend que le travail va continuer.
Nous en sommes bien heureux. J'ai pu assister à un événement à Kinshasa, fin de l'année en octobre.
Jeudi critique. Organisé par l'association
voilà. des jeunes écrivains. Et on retrouve votre ami d'enfance, Monsieur Tata Longue Béatitude. Et c'est vrai que certaines réactions pouvaient être étaient un petit peu virulentes. Vous y attendiez certainement de par la société quinoise, qui est parfois un peu à l'américaine. Hein. On fait Exactement. Des choses, mais on ne veut pas les montrer.
Exactement, je le dis, je crois, en quatrième de couverture. Le conseil éditorial l'avait dit, que nous sommes une société faussement puritaine. Ce sont des choses... que dans les événements, dans les circonstances, on dit non, c'est pas bien de se comporter comme tel. Mais quand on marche dans la ville de Kinshasa, je reviens encore là, on voit tout autre chose. Certains appellent ça dépravation des mœurs, mais moi je dis que c'est une manière de vivre qui est totalement différente de ce que l'on entend, de ce que l'on voit dans les grandes structures.
Et vous avez eu le courage, en tant que Congolais, de mettre tout cela dans un livre.
De mettre tout cela dans un livre parce que, vous savez, c'est, le papillon bleu, c'est aussi les légendes urbaines. Ce que l'on raconte. Quand on va dans les matanga, dans les lieux de deuil, on entend toujours des histoires. Papa, on a Simba qui ici. Moi, c'est un bon monnaie dans Moutouka. Moi, je suis raté dans Boutou. Il y a plein d'histoires comme ça. Et je n'ai fait que prendre ces histoires-là. Je les ai rassemblés et ça a donné corps à un récit vraisemblable des légendes urbaines de Kinshasa.
Voilà, donc ça, ce sont vos deux ouvrages donc, qui ont déjà été publiés. Une envie de Kinshasa, Le papillon bleu. Ceux qui liront le livre sauront pourquoi nous avons le titre Le papillon bleu. Donc je ne vais pas dévoiler, je ne vais pas le dévoiler ici. Et je vais revenir sur... Une envie de Kinshasa, et je vais présenter aux auditeurs et aux spectateurs un petit extrait. Serré, crie le receveur au chauffeur. C'est pour dire que le véhicule peut se mettre en route. La tôle de la combi chauffe. La chaleur est infernale à l'intérieur de l'habitacle. Les 10 passagers, tassés comme des sardines dans une boîte, transpirent en silence. Le chauffeur, un sachet de whisky à la main, lunettes de soleil à demi baissées, balance la tête au rythme de la musique qui sort de l'autoradio. Là encore, c'est la dernière chanson d'un artiste en vogue qui passe. Je regarde à travers la baie vitrée, les scènes de Kinshasa de tous les jours qui défilent. Une dame avec son panier de pain sur la tête, l'essireur de chaussures qui frappe la brosse contre la caisse de bois pour appeler les clients. Les vendeuses d'objets de seconde main, l'œil aux aguets, épient le moindre geste suspect de tout le monde. Le tout baigné dans un brouhaha indescriptible de klaxons de voitures, de gens qui se parlent à tue-tête. Alors, les personnes qui ont entendu cet extrait peuvent voir que vous avez une écriture qui est assez diversifiée. Donc on reconnaît là un petit peu l'œil du journaliste et on voit un langage qui est simple, mais on sent qu'il a été aussi recherché, un langage qui est poétique. Et ici, on ne le voit pas, mais dans Le papillon bleu, dont je ne vais pas lire d'extrait aujourd'hui, je crois qu'on peut comprendre pourquoi.
Pourquoi, oui.
Voilà. Donc, parfois, l'écriture peut être aussi triviale et assez crue, avec des mots aussi en lingala, etc. Donc, cette écriture diversifiée, est-ce qu'elle vous a été inspirée par d'autres auteurs? Dites-moi un petit peu plus sur cette écriture que vous avez.
Alors, c'est là qu'intervient...
Et les inspirations.
Oui, c'est là qu'intervient mon travail de cuisinier.
Ah, c'est intéressant.
J'écris comme je cuisine. Je cuisine comme j'écris. Le but est de plaire. Quand l'assiette va en salle, on ne voit pas le cuisinier. Quand mon livre est à portée de main, ce que je veux, c'est qu'on ne dise pas que c'est un brillant écrivain, mais qu'on dise plutôt quelle belle histoire.
Magnifique.
C'est l'histoire qu'on doit prendre. Alors pour cela, je dois faire de la mesure de mes mots, de mon style, même du registre des mots. Je ne dois pas être éblouissant parce que je vais aveugler le lecteur. Je ne dois pas être terne parce que je serai fade, comme un plat. Il faut qu'il soit assez salé. Et le meilleur goût qui existe en cuisine, c'est ce qu'on appelle l'umami.
L'umami.
Umami.
Umami.
C'est un mélange de sucré, salé, amer, acide. Les quatre goûts mélangés. C'est comme ça que j'écris. Et la première bouchée doit percuter pour qu'on continue. C'est ce que je recherche dans mon écriture. Que le lecteur continue son travail de lecture, son plaisir de lire, à déguster l'œuvre. Et dans tout mon parcours, je me souviens, un des premiers livres que j'ai lus, après les comics, les bandes dessinées qui sont toujours un grand travail d'apprentissage de la langue, hein. Peu importe la langue, Lingala, Swahili, français, anglais, c'est les bandes dessinées qui permettent d'acquérir les jeux de mots, le style, et ainsi de suite. J'ai lu Le Bossu de Paul Féval. J'avais 11 ans. Ça m'a marqué. C'est à cause de cela même que j'ai eu des problèmes d'yeux. Parce que je lisais en marchant, sous le soleil de Kinshasa. Tellement que j'étais pris par ce texte. Après, j'ai découvert beaucoup d'autres dans la littérature française, avant de retomber dans la littérature congolaise, africaine. Et c'est là où Amadou Kourouma a carrément emporté la mise. Ce langage qui... Il a recréé le français. La langue française a été recréée en y mettant des mots, Lingala, qu'on retrouve... lui, il mettait des termes en bambara, oui, en mandingue, oui, et ainsi de suite. Et j'ai vu cette manière de faire que j'ai aimé. Et surtout ce style-là très enlevé. Quand on lit « Allah n'est pas obligé », on voit combien ça...
Ça percute, effectivement.
Ça percute, oui. Il arrache. C'est un dialogue, c'est comme on entend vraiment cet enfant soldat raconter l'histoire. Et c'est comme ça que j'ai aimé le style. Calix Béala aussi qui a emmené dans « Maman a un amant », qui a emmené aussi cette manière-là de travailler le texte. J'ai trouvé cela très intéressant, surtout quand on parle à un public qui est le nôtre. Il faut dire que l'écrivain écrit d'abord pour les siens, sans caricaturer. Le Congolais, le Quinois, de par le monde, fait partie de la culture du commérage. Donc il ne faut pas lui emmener une histoire soignée. Il faut le scandaliser. C'est pour cela qu'il faut des phrases courtes, il faut de l'entraînement, il faut de l'enchaînement pour qu'il reste dans le scandale. Mais après, puisque c'est écrit, il faut un peu s'élever pour l'emmener aussi dans cette beauté-là du plat, lui faire découvrir qu'il n'y a pas que l'igname, le foufou, il y a aussi les frites. Et c'est comme ça qu'on va dans le Moudimbé pour coller à son texte un style beaucoup plus fouillé, beaucoup plus psychologique, où il retrouve la description, hein, telle que vous venez de lire là, le mettre dans la scène, mais hors de la scène pour se rendre compte que oui, on me parle d'une ville, on me donne une carte postale. C'est de là qu'est venu tout ce foisonnement-là de style.
Effectivement, vous avez très bien expliqué ce lien entre votre métier de chef cuisinier. Donc là, vous éduquez les papilles des gens. Exactement. Et avec l'écriture, vous éduquez aussi, donc en quelque sorte, donc vos lecteurs. Bien, félicitations donc pour cette vue, cette vision que vous avez. Je crois qu'on arrive petit à petit, malheureusement, à la fin de notre émission. Et j'aimerais un petit peu en connaissions plus sur votre je ne sais pas si vous êtes éditeur, si vous travaillez pour la maison d'édition, je n'ai pas bien saisi. Pourriez-vous nous expliquer ?
La maison d'édition Bassama Édition, c'est une maison qui est en train de naître. Je travaille avec quelques amis pour mettre sur pied cette maison-là. Normalement, cet été, avec les parutions que nous aurons cet été, la maison sera officielle. Elle sera basée sur Kinshasa. D'abord, il y a l'ASBL, Bassama, qui se chargera de la promotion de la des cultures congolaises, particulièrement à travers les arts, la musique, la littérature, la danse, le théâtre, et des spectacles, ainsi de suite, et la gastronomie aussi. Et officiellement, on s'installe cet été, d'ici le mois d'août, et on fera ce travail d'édition des auteurs de Kinshasa, du Congo, ainsi que de la diaspora, et des rencontres pour faire connaître cette culture-là.
Félicitations, nous souhaitons une bonne continuation à cette jeune maison d'édition et nous aurons certainement le plaisir dans un futur prochain de pouvoir interviewer un de vos auteurs, donc nous avons hâte. Alors là, vous voyez que nous avons quelques livres qui ont été d'auteurs congolais, BD, livres, etc. Donc nous demandons à tous nos invités de regarder, de choisir le livre soit qu'il aimerait lire, soit le livre qu'il voudrait recommander à notre public parce qu'il l'a lu. Bon, ici, ce sont... il y a vos ouvrages, donc je vais vous demander de ne pas choisir parmi vos deux ouvrages parce qu'après vous avoir écouté, ceux qui ne les ont pas encore lus, je sais qu'ils feront tout pour les avoir. Donc voilà, regardez un petit peu ce qui peut faire le bonheur d'un lecteur, d'un prochain lecteur. Donc, ou de vous-même aussi.
Là, directement, je prends Parole du perroquet.
Qui est sorti il n'y a pas longtemps.
Qui est sorti il n'y a pas longtemps. Parce que, pour plusieurs raisons, c'est le premier travail édité des éditions
Miesi.
C'était un gros challenge pour eux. Le challenge vient du fait que l'auteur, si on doit parler en termes de génération, n'est pas de notre génération. C'est le pont qu'on fait entre les jeunes écrivains, on a parlé de l'AGECO, oui, et ceux qui écrivaient, qui ont semblé abandonner ce travail d'écriture, après tout ce que les politiques ont fait à la culture. Et les éditions Miesi y sont allées ressortir, c'est comme dans les films de guerre, hein, on va prendre ce vétéran-là qui a arrêté la guerre pour venir sauver... Alors ils ont pris le vieux, comme on dit chez nous, de manière affective, le vieux Vincent. Et on parlait tout à l'heure du style, il paraît qu'il a un style corsé, très difficile à pénétrer, mais qui vaut la peine. C'est pour cela, je ne l'ai pas encore eu.
Moi non plus.
Je ne fais qu'embêter l'équipe éditoriale pour savoir comment l'avoir. Je pense que ça sera pour bientôt.
Ah, mais vous auriez dû passer par Bokutani. Parce que nous sommes venus avec quelques livres pour des personnes en Belgique. Donc, on va en parler après l'émission.
D'accord. Donc, c'est ce livre-là que j'aimerais vraiment lire parce que ça me permettrait aussi dans mon travail pédagogique de savoir comment parler aux jeunes du travail qui est en train de revenir. Hein. Le travail d'écriture revient au Congo comme il l'était jusqu'au milieu des années 80. Et c'est vrai que ça, c'est déjà une grosse pierre qui va permettre à l'édifice de continuer à être construit.
Voilà, et à la littérature congolaise de continuer à avancer.
À avancer, oui.
Voilà, merci. Alors, je vais encore vous demander toute petite chose avant de vous laisser, c'est de dire un mot de la fin dans une des langues nationales pour les auditeurs. Je vous laisse la place.
Lilobananga yasuka, non, lobananga la eza, ma komi, beaucoup, oyonyon so, bozomona na manaka oyo ma komi, eza, pona ko pesa biso, posa ya kotanga. Pour ça, il y a un et c'est ce sunga, to somba ba buku wana po buku yangonde ezali solo ya solo ya mboka na biso. Yangonde ko matisa kita na biso to kotike la bana biso. Na yango na ko senga na bino banso bozolanda manaka oyo boye ba kosunga bakomi buku na kosombaka ba buku na bango pe kolobela ka bango na bayebaye binanu te.
Monsieur Nzao Lembe, merci de votre venue. Mikanda vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Merci.